souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce webinaire de renforcement de capacités sur les récipiendaires du fonds. Nous sommes ravis de vous voir en ligne et de commencer avec ce premier webinaire qui va se concentrer sur les opportunités des mesures pour les femmes dans les opérations DP et sur la méthodologie MOWIP en elle-même. Quelques annonces pratiques avant de démarrer. Nous avons un service d'interprétation simultanée dans trois langues, français, espagnol et arabe. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation qui se trouve à droite en bas de votre écran Zoom. C'est une petite icône en forme de monde pour accéder au service d'interprétation. Vous ne pourrez que accéder au service d'interprétation que si vous rejoignez la réunion à travers de l'audio de votre ordi. Je rappelle tout le monde de parler doucement pour faciliter l'interprétation de la part de nos chers interprètes et j'aimerais vous dire que cette séance sera enregistrée et elle deviendra disponible dans notre site internet lors de prochaines journées pour que vous ayez et pour que vous y ayez accès dans le prochain jour. Nous allons aussi télécharger les diapos. Les diapos seront disponibles en anglais et en français. Et dernièrement, lorsque vous afficherez vos questions et affichez, pardon, veuillez afficher vos questions dans le chat au fur et à mesure que nous avançons. C'est comme ça que nous allons répondre de manière orale ou bien de manière écrite à vos questions. Maintenant, je vais passer la parole à nos collègues du DECAF et Cornell, l'Université Cornell, pour qu'elles commencent avec notre présentation. Comme vous voyez dans la diapo, voilà l'agenda et je vais passer la parole à Sabrina et Ingrid. Et dernièrement, si vous ne parlez pas, mettez-vous en silence, s'il vous plaît. Merci Déborah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable à DECAF et je soutiens le fonds avec les évaluations MOWIP. Le MOWIP a été développé ensemble entre DECAF et Cornell comme un outil pour assurer les opérations de sécurité. Et premièrement, j'aimerais donner à Sabrina de l'Université Cornell l'opportunité de se présenter et de commencer avec la présentation sur le MOWIP. Bonjour, bon après-midi, bonsoir selon le lieu, l'endroit où vous vous retrouvez. Je m'appelle Sabrina Karim, je suis professeure assistante dans l'Université Cornell et je suis directrice du laboratoire de sécurité. C'est l'organisation qui travaille avec DECAF pour travailler, pour développer la méthodologie MOWIP. 4 ans se sont écoulés depuis le moment que nous avons commencé avec notre travail avec le MOWIP et que nous avons commencé à aider les pays à le mettre en place. Donc, je vais commencer par parler sur pourquoi MOWIP et je vais décrire le processus de la méthodologie et aussi le partenariat avec le laboratoire de sécurité. J'aimerais dire que la méthodologie MOWIP est un type d'évaluation, une méthodologie qui est considérée comme les standards, la norme pour assurer la participation des femmes dans les opérations de paix. Il s'agit d'un cadre systématique complet permettant d'identifier les bonnes pratiques existantes d'une institution de sécurité et les améliorations. Et il est conçu aussi pour créer des recommandations pour surmonter les barrières. Elle sert aussi comme de modèle pour d'autres pays et d'autres institutions pour savoir ce que votre institution sécurité fait bien et ce que l'on pourrait adopter comme meilleure pratique. Une petite précision. Nous avons piloté la méthodologie dans plusieurs pays, dans plusieurs parties du monde, depuis les derniers 5 ans. Maintenant, nous nous retrouvons dans la troisième ronde ou le troisième cycle. Nous avons traversé des processus pour mettre à jour et nous assurer que les meilleures pratiques soient implémentées. Donc, voilà la troisième génération ou le troisième cycle que nous avons entrepris. Donc, je vais commencer par aborder les 10 barrières possibles que nous avons identifiées à travers notre recherche. Nous avons publié un rapport en 2019 qui a identifié quelques domaines problématiques et nous les avons consolidés dans 10 problèmes et 10 barrières possibles contre les femmes. Premièrement, nous avons l'ensemble de la population éligible. C'est ça dont nous pensons, c'est-à-dire il n'y a pas assez de femmes dans les forces armées ou dans la police, dans le police, pardon. Donc, il est difficile d'avoir des opérations de paix si on n'a pas assez de femmes. La recherche a retrouvé que ce n'est pas nécessairement la vérité. Il y a des pays qui ont de hauts pourcentages de femmes dans les forces policières et armées. Et parfois, il y a donc c'est un bon point de départ, mais ensuite on passe à la deuxième barrière, c'est les critères de déploiement. Et il faut réfléchir aux critères qui sont disponibles nationalement et au niveau de l'ONU qui sont nécessaires pour que les femmes participent aux opérations de paix. Et il faut savoir si les compétences qui sont nécessaires coïncident avec les compétences disponibles de la part des femmes. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, le choix est plus favorable aux hommes, etc. Puis, nous avons la sélection de déploiement, et c'est-à-dire quel est le processus de sélection pour les opérations d'épée. Est-ce que les femmes font partie d'un bataillon déjà ou non, etc. Comment se passe avec le processus de sélection? La quatrième barrière, ce sont les restrictions de chaque domicile ou de chaque maison, les restreintes familiales, par exemple, si, par exemple, des rumeurs qui peuvent être répandues, mais aussi, par exemple, les politiques parentales, les politiques de congé, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une femme qui participe aux forces, aux opérations de paix tombe enceinte? Qu'est-ce qui se passe dans le marché du travail, par exemple? Puis nous avons l'infrastructure des opérations de paix, les logements, les équipements qui sont disponibles pour déployer. Par exemple, les installations de salles de bain, de toilettes, les uniformes, les chambres de l'accès aux services tels que la santé reproductive, la santé et le service de santé. Il est possible aussi que si vous avez eu un déploiement, vous avez eu une expérience fantastique, que vous revenez, que vous racontez aux autres votre bonne expérience, cela pourrait encourager les autres de vouloir se déployer aussi. Mais le contraire peut s'appliquer aussi. Par exemple, le fait que vous avez eu une expérience affreuse et donc les gens ne seront pas très encourager à participer au déploiement dans ce cas-là. Puis nous avons la transition sur ce qui se passe après, c'est-à-dire est-ce que le déploiement a une valeur pour votre carrière? Nous avons retrouvé que dans certains pays, le déploiement pour les opérations de paix de l'ONU n'est pas un bon pas dans votre carrière, une bonne étape dans votre carrière. Dans d'autres pays, c'est absolument le contraire. Et puis, on passe aux barrières de leadership et aux barrières culturelles. Le numéro 8, c'est le leadership sur l'égalité des genres dans les forces de sécurité. Il s'agit des leaders individuels d'un côté, mais aussi les cadres institutionnels qui sont disponibles au niveau national, qui assurent l'égalité des genres, c'est-à-dire les politiques qui existent à travers, par exemple, en matière de l'égalité des genres, est-ce qu'une institution a ce cadre-là et est-ce qu'il y a de la participation de la part du leadership? 9 et 10 sont liés aux cultures des institutions, le rôle des genres, par exemple le fait de savoir si les hommes et les femmes pensent que tous les deux sont capables de mener à bien leurs tâches et le fait de ne pas avoir des rôles marqués par les genres. Par exemple, est-ce que les femmes remplissent des tâches plus féminines, pour ainsi le dire? Est-ce que les hommes remplissent des tâches plus masculines? Et puis, nous avons l'exclusion sociale. Il y a des aspects culturels qui exercent une exclusion pour les femmes, contre les femmes, parce qu'il s'agit, selon la pensée culturelle de certains pays, que ce sont des tâches à être remplies par des hommes. Donc, voilà les 10 barrières qui nous aident à savoir la performance, à connaître la performance de chaque pays en cette matière. On passe à la suivante. Maintenant, la manière dont nous mesurons les indicateurs, c'est à travers les outils de récolte des données. Nous avons des indicateurs qui mesurent chacun de ces domaines, mais puis nous avons des informations pour les indicateurs. Donc, voilà les outils de récolte de données dont je vais parler maintenant. Premièrement, nous avons le formulaire de recherche des faits. Donc, nous avons 200 questions liées à chacune des barrières que je viens de mentionner. Et l'équipe d'évaluation regarde les documents disponibles, que ce soit des documents légaux, de la législation, des livres blancs qui ont été écrits. En général, ce que nous trouvons, c'est que il n'y a pas beaucoup de recherches disponibles publiquement pour répondre à toutes ces questions. C'est pourquoi les entretiens dont je vais parler tout de suite sont utilisés pour ce formulaire de recherche des faits. Donc, voilà les documents que l'on peut trouver sur chacune des barrières et c'est comme ça que l'on complète le formulaire d'indicateurs. Donc, voilà les entretiens. Et nous avons mené plus de 20 entretiens avec des décideurs clés, des experts en la matière sur les opérations de paix et le rôle des femmes dans ce type d'institution. Et nous avons un modèle d'entretien, c'est pour apprendre comment la prise de décision est faite, mais il est utilisé pour remplir les formulaires de recherche des données. Donc, qui sont les décideurs, les officiers supérieurs de l'armée, de la police et de la gendarmerie? Et par exemple, on peut aussi avoir du personnel ministériel supérieur aussi qui peut être engagé dans la prise de décision, etc. Donc, les entretiens nous donnent des données, mais on peut aussi utiliser le troisième volet ou l'outil le plus compliqué. Il n'est pas tellement compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est cette enquête. Donc, nous voulons savoir non seulement ce que sont les données concrètes, mais aussi comment les personnels dans les forces de sécurité ressentent ces opérations d'épée, leur expérience. Nous avons sélectionné 380 enquêtes individuelles pour savoir les différences entre les hommes et les femmes. Donc, nous avons mené une enquête sur la police du total. Une moitié, ce sont des femmes et une autre moitié ont été des hommes. 190 et 190. Donc, c'est Et on a aussi un équilibre entre les femmes qui ont été déployées et les femmes qui n'ont pas été déployées. Même chose pour les hommes, d'accord? Et il s'agit d'une enquête de 90 minutes et les questions, nous les avons révisitées plusieurs fois et nous les avons adaptées à travers cette période des 5 ans pour nous assurer de mesurer ce que nous devons mesurer. Et ce sont des enquêtes qui seront localisées et traduites comme part de la méthodologie. Donc, vous allez pouvoir adapter votre enquête à votre contexte des pays selon les structures institutionnelles et les normes sociales. Vous allez avoir besoin d'une équipe de recenseurs entraînés sur les enquêtes pour implémenter les enquêtes. Donc, vous serez les leaders. Ce sera une enquête en face à face. Ce ne sera pas un formulaire à remplir en ligne. Hein. Et oui, les enquêtes seront réalisées en face à face dans un endroit privé et les recenseurs auront une tablette, une appli dans cette tablette et ils utiliseront cette appli pour enregistrer les réponses. Et si vous êtes en partenariat avec Cornell, cela sera mis dans une plateforme secure. Et si vous n'êtes pas en partenariat avec l'Université Cornell ou le labo, nous nous assurerons que toutes les données seront secures.
Très bien, donc je vais redonner la parole à Inka. Merci. Donc, au nom du DICAF, nous organisons ces activités pour vous soutenir dans le processus et lorsque vous faites la mise en place du système, il y a plusieurs institutions qui ont participé et nous allons maintenant partager les leçons apprises. Voilà le moment d'étudier la méthodologie MOWIP dès le début. Nous avons un manuel qui explique en détail comment l'étude est menée. Il est très important et il est disponible dans plusieurs langues et je vous encourage à commencer à le lire dès le début parce que il faudra bien comprendre la méthodologie pour avoir une bonne application et pour le processus en général. Le deuxième point, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà, mais c'est d'assurer l'adhésion au sein de l'institution du secteur de la sécurité en utilisant la méthodologie MOWIP. Je vous encourage à présenter l'application et c'est fort important de bien expliquer le but de MOWIP lors de présenter votre candidature et le processus d'évaluation. Il y a quelque chose que probablement vous allez mettre en place tous les outils que notre collègue vient de mentionner et vous avez probablement beaucoup d'expérience accumulée à partir de votre parcours sur qui doit être dans ces comités et pour pouvoir répondre à vos questions par rapport à penser à qui doit participer au comité de sécurité. Et finalement, le dernier conseil aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez déjà probablement considéré, qui va faire partie de l'équipe d'évaluation. Mais c'est très important de choisir soigneusement l'équipe d'évaluation. Et ça veut dire l'équipe de gestion de projet et de recherche. Si vous considérez toutes les expériences à l'heure de mettre en place les différents outils et vous avez besoin d'expérience dans la gestion de projets pour le mener à bien. C'est quelque chose où nous pouvons bien sûr vous soutenir, vous conseiller pour décrire le profil idéal des personnes qui doivent faire partie de cette équipe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, nous avons les deux manuels que je vous encourage à commencer à lire. Et nous venons de publier le dernier, bref, et c'est une publication pour les leçons apprises du point de vue pratique et tout ce que pour à partir de l'expérience de ceux qui ont complété un processus MOWIP. Donc, je vous encourage à le considérer à l'heure de présenter votre candidature parce que c'est vraiment très, très utile. Prochaine diapo. Voilà cela du bref, la feuille de route MOWIP qui nous montre les 5 pas principaux de la feuille de route. C'est tout simplement pour vous donner un aperçu. C'est quelque chose que nous vous conseillons de considérer et c'est important de le penser à cette étape maintenant lorsque vous remplissez les détails et comment vous pouvez vous préparer, comment vous allez faire la collecte de données, ce que vous devez analyser, la validation, les lignes de temps, tout ce que vous devez considérer à l'heure de vous préparer. Et cela vous donne beaucoup d'informations pour les 5 étapes du MOWIP, les bons pratiques qui ont été développées et le type de défi que vous allez probablement rencontrer. Il est disponible en espagnol, en français et en anglais. Et le lien est dans le chat. Prochaine diapo. Vous pouvez trouver toutes ces informations, les manuels précédents et la boîte à outils MOWIP. Ça, c'est la chose la plus importante. La boîte à outils MOWIP a des outils pour collecte de données, des modèles détaillés pour faire les sondages, les formulaires et des informations additionnelles pour compléter le MOWIP. Je vraiment vous conseille de donner un coup d'œil et de l'étudier pour mieux comprendre les détails qui sont disponibles à l'heure de mettre en place le MOWIP. Prochaine diapo. Dans la boîte à outils, vous allez trouver des explications. Les explications correspondent à cette étape où vous présentez la candidature, ce que vous devez considérer. Donc, ça, c'est une lecture très importante. Ce n'est pas très long, c'est plutôt courte, mais je vous recommande de le lire. Et voilà les informations que vous pouvez trouver dans le site web du fonds de l'initiative ELSI. Il y a des vidéos, il y a des informations intéressantes pour considérer. Et vous pouvez vous rendre sur ce site. Je vous recommande de vous rendre sur ce site pour avoir cette lecture avant de commencer le processus de candidature. Prochaine diapo. Très bien. Maintenant, Sabrina va décrire les modèles de partenariat pour compléter le MOWIP. Allez-y. Très bien, on peut passer à la prochaine. Nous avons 3 modèles de partenariat et cela fait partie de la lettre d'intention que vous avez présentée. Mais je voudrais décrire les modèles en détail, tout simplement pour vous donner un aperçu avant de commencer la candidature. Le modèle A, c'est le modèle où nous avons eu beaucoup de partenariats avec Cornell. C'est un partenariat direct avec le GSS de Cornell. Le laboratoire GSS de Cornell travaille avec l'équipe de recherche de leur pays pour la collecte de données directement. Cela inclut par exemple deux ou trois personnes qui vont dans le pays, qui se rendent sur le pays pour faire des cours de formation face à face. C'est un cours de formation de 10 jours, 2 semaines, où on décrit le processus de collecte de données face à face. Nous avons déjà le processus ouvert pour le sondage. Donc, le sondage est déjà programmé dans la candidature et la localisation du sondage fait partie du processus. Là, on lit le sondage avec l'équipe du pays et on l'adapte au contexte du pays et on fait ces changements dans le sondage. Et après, on fait la formation des personnes qui vont mettre en place le sondage. L'équipe du pays met en place les entretiens, les formulaires, bien sûr, avec un cours de formation auparavant. À l'heure de mettre en place le sondage dans le pays, les données qui sont collectées dans ces sondages vont directement à Cornell de manière sécurisée. Et nous analysons, nous nettoyons les données et nous créons un rapport de base. Et le pays va remplir cela avec le reste des données pour le processus d'appropriation au niveau local en écrivant leur propre rapport. Nous sommes disponibles aussi dans ce modèle de partenariat. Nous pouvons revenir encore une fois dans le pays pour organiser, pour aider avec le processus d'organisation des données et pour écrire les recommandations. Donc ça, c'est le modèle numéro 1, le modèle A de partenariat. Le modèle B de partenariat, c'est plus ou moins la même chose, mais la différence, c'est que nous ne programmons pas le sondage. Nous avons accès aux données, bien sûr, pour faire l'analyse de données et le nettoyage des données. Mais nous ne créons pas le rapport de base, le squelette du rapport. Nous allons toujours sur le pays pour faire les cours de formation et nous aidons avec les outils. Nous ne programmons pas le sondage, mais les données du sondage, après avoir complété le sondage, nous aidons avec le nettoyage et l'analyse de ces données. Donc, pour ces deux modèles de partenariat, nous pouvons signer un accord de données. Ça veut dire que nous travaillons ensemble pour identifier le meilleur accord de données. Le GSS utilise les données agrégées, donc nous ne faisons pas des analyses pour un pays. Nous combinons les données des différents pays pour pouvoir faire une analyse plus généralisée par rapport à la participation. Un exemple, c'est le rapport global. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le DECAF a publié ce rapport il y a 2 ans et nous avons fait des recommandations générales aux Nations Unies. Et donc, ça nous permet de faire la recherche et améliorer le niveau institutionnel du pays. Donc, les accords de données nous permettent de dire que toutes les données sont anonymes, donc on ne peut pas identifier la source de ces données. Le nom des pays ne seront pas publiés, si ça c'est ce que vous voulez. Et la duration pendant laquelle les données peuvent être utilisées. Donc, nous avons des accords de données. Parfois, ça prend pas mal de temps, donc c'est bon de commencer le plus tôt que possible. Et le partenariat de type C, il n'y a pas de cours de formation en présentiel, il n'y a pas d'accord de données et vous êtes responsable de la collecte de données et d'écrire les rapports. Donc, ça, ce sont les trois modèles de partenariat. Nous n'avons que le partenariat modèle A. Il y avait un pays qui avait commencé avec le modèle B, mais ils ont transitionné vers le modèle A. Et ça, c'est possible. Vous pouvez commencer avec une modalité et décider de changer plus tard et choisir une autre modalité. Donc, pour créer l'équipe d'évaluation, si nous sommes impliqués, ça veut dire le modèle A ou B, il y a trois équipes qui travaillent ensemble. Le GSS, nous avons les institutions de sécurité et nous vous recommandons d'avoir une équipe là et l'équipe de recherche. Ce que vous voulez faire, c'est d'avoir une très bonne coordination entre les trois groupes et notamment entre les forces de sécurité et l'équipe de recherche. Ça veut dire que vous allez embaucher des personnes avec quelques compétences clés. En général, ça doit être des personnes qui ont de l'expertise en matière de femmes, paix et sécurité. Donc, quelqu'un qui connaît bien le programme femmes, paix et sécurité et qui peut vraiment marquer cette différence. Une personne doit pouvoir interpréter les conclusions depuis la perspective de genre.
Donc, cette partie-là est plutôt pour l'équipe de recherche. Ce sera l'équipe de recherche qui aura accès à l'institution de sécurité, qui aura un bon rapport avec l'institution de sécurité et les fonds fiduciaires ou les personnes fiduciaires. Et la raison pour laquelle les institutions de sécurité en elles-mêmes ne font pas l'enquête et ne réalise pas les méthodologies, c'est parce qu'il faut avoir quelqu'un plutôt objectif pour éviter les conflits d'intérêts dans les forces de sécurité. Et il s'agit donc d'un rapport objectif qu'il faut avoir. Et donc, il faut éviter les conflits d'intérêts. Pour ça, il faut choisir une personne plutôt éloignée. Il faut avoir aussi une bonne relation de travail. La troisième compétence, c'est d'avoir des compétences qualitatives et quantitatives dans la recherche, surtout si vous êtes dans le modèle C où le labo de genre et sécurité n'est pas engagé. C'est quelque chose de fondamental d'avoir cela. Il faut s'assurer que l'institution a fait des enquêtes par le passé et qu'elle a fait une analyse de, par exemple, traitement des données, etc. Et l'institution doit avoir expertise aussi dans la réalisation, la transcription et l'analyse d'entretien et aussi l'analyse des données. Nous recommandons que l'équipe de recherche a quelqu'un avec de l'expertise dans la rédaction d'un rapport. Je crois qu'une bonne pratique ici serait que le rédacteur du rapport et de l'expérience avec la compréhension des dynamiques d'une force de sécurité, parce qu'il s'agit d'une institution assez spécifique, donc il faut avoir de connaissances sur les opérations de paix, sur les femmes, mais aussi il faut que cette personne ou ces experts comprennent comment les institutions militaires et de police fonctionnent. Il faut avoir aussi des compétences de gestion de projet. Il faut avoir quelqu'un que le projet accomplisse ses dates butoirs, etc. Et finalement, les compétences d'animation, surtout vers la fin, lorsque le rapport est validé, il faut que quelqu'un présente les conclusions auprès des forces de sécurité pour pouvoir interagir, pour assurer une bonne compréhension et pour assurer que le processus de validation fonctionne bien. Et donc, c'est comme ça que on pourra formuler des recommandations. Oui, c'est à Inka maintenant. J'aimerais tout simplement continuer avec ce que Sabrina vient de nous dire. Il faut aussi implémenter les recommandations. Donc, il faut que l'on sache comment formuler les recommandations et aussi démarrer les discussions avec les institutions du secteur de sécurité. Parce que Le processus ne s'achève pas lorsque l'on fait l'évaluation. En fait, c'est là que le processus commence. Lorsque l'on reçoit les recommandations, il faut réfléchir sur comment mettre en place ces recommandations pour accroître la participation des femmes. Comme ma collègue a dit, il y a trois modèles et le tableau d'aide est disponible pour le helpdesk est disponible pour accomplir les trois modèles et les trois modèles pourront obtenir l'aide à travers ce helpdesk, ce service d'assistance. D'accord? Donc, vous pouvez maintenant poser vos questions sur la méthodologie MOWIP, j'ai les leçons apprises, j'en ai déjà parlé. Et, par exemple, comment créer une équipe, comme Sabrina a dit, il y a différentes qualités qu'il faut avoir. Bien sûr que pas tout le monde aura les mêmes compétences, mais il faut avoir une équipe qui a de l'expérience ou de l'expertise qualitative, quantitative. Il faut que l'équipe soit fiable pour que nous puissions générer et partager des idées durant la période de la candidature et une fois que l'on arrive à l'étape de démarrer avec le MOWIP, nous pouvons vous fournir notre soutien, par exemple au moment d'identifier l'équipe ou pour identifier un groupe de travail au sein de l'institution de sécurité, aussi comment choisir les bonnes personnes pour être là et vous soutenir tout au long du processus. Ce type de questions, j'en suis sûre, probablement surgiront. Donc voilà une description plus détaillée de notre soutien. Dans la boîte à outils, il y a des modèles, il y a différents outils, il y a de la documentation et nous serons disponibles aussi pour répondre aux questions sur les budgets, par exemple la budgétisation. Et par exemple, si jamais il y a des questions qui ne sont pas compréhensibles, donc pour pouvoir avoir une candidature solide, vous pouvez nous contacter pour poser vos questions, d'accord? Et nous pouvons aussi fournir de l'orientation sur la sélection des partenaires d'évaluation. Ensuite, nous pouvons fournir de l'entraînement, de la formation et des matériaux de communication, par exemple des séances semblables à celle-ci, pour savoir comment on mène l'évaluation dans le cadre du MOWIP, pourquoi il y a une certaine manière de poser les questions qui est plus efficace que d'autres, etc. C'est là que nous serons en mesure de fournir de la formation sur comment mettre en place la méthodologie. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on avance, il y a un processus de validation qui est disponible. Et maintenant, nous avons déjà donné notre soutien à plusieurs institutions. Nous leur avons donné des idées pour qu'elles puissent avancer. Donc, vous pouvez toujours contacter le helpdesk, le service d'assistance. Donc, voilà les aspects où le helpdesk ne peut pas vous donner du soutien. Le fonds et les fournisseurs de fonds, les questions sur la budgétisation, tout cela, ce sont des questions qu'il faut poser auprès du fonds. Si nous retrouvons que ce sont des questions pour le secrétariat, nous allons vous adresser au secrétariat. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr sur qui peut répondre à votre question. Posez-la et nous allons vous adresser à la bonne personne. Nous répondons aux questions liées aux détails des outils de collecte de données, au traitement ou à la validation des données. Ça doit être fait par l'institution nationale ou dans le cadre du modèle A et B, c'est l'université Cornell. Si c'est le modèle C, vous avez besoin d'avoir une équipe qui mène l'analyse des données. Nous, le helpdesk ne fournit pas les fonds au TPCC ou assumer les responsabilités de gestion de projet. Naturellement, c'est véritablement une responsabilité de votre équipe à vous et nous pouvons vous aider à identifier de goûts d'étranglement, par exemple, etc. Mais nous ne serons pas les responsables de la gestion du projet. Si jamais vous avez des questions, nous ne pouvons pas rédiger une proposition de projet ou rédiger un rapport MOWIP. Nous pouvons faire avoir une discussion avec vous pour vous aider, mais ce n'est pas nous qui serons les responsables de rédiger la proposition de projet ou le rapport MOWIP. Je vais redonner la parole à Sabrina et puis nous allons avoir un peu de temps pour nos questions. Oui, je crois que ma collègue a souligné les différences assez bien. Comme on a dit, le labo de sécurité fournit de l'aide technique pour les modèles A et B. Et les raisons pour lesquelles on voudrait faire un partenariat avec le labo, c'est pour répondre aux questions de qualité et d'éthique. Nous nous assurons toujours d'avoir des données de haute qualité, que ce soit des données bien stockées et bien gardées. Nous avons engagé les équipes locales depuis 5 ans dans les cadres du MOWIP. Nous avons des options de stockage des données sécures pour ceux qui seront disposés à signer un accord de données. Donc, je pense que l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est de regarder les rapports MOWIP qui ont été déjà rédigés sous l'égide du modèle A pour avoir une idée de ce processus. Ça y est, je pense. Eh bien, merci. Merci Inka et Sabrina de cet aperçu sur la méthodologie, sur les modèles, les qualifications qui sont nécessaires pour votre équipe de gestion de projet. Et pour les partenaires de mise en place. Maintenant, nous aimerions utiliser le temps qui nous reste pour répondre aux questions de la part de nos participants. Donc, je vous demande de lever votre main. Je vais couper le partage d'écran. Donc, levez la main, s'il vous plaît, et commençons avec Anne-Marie. S'il te plaît, Anne-Marie, tu as la parole.
Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Déborah. I will speak in French. Voilà, je vais parler en français. Merci à Inka et Sabrina pour les différentes présentations. Voilà. Je voulais un peu revenir sur les partenariats. Permettez. Ma question concerne les partenariats. Je voulais qu'on revienne un peu sur le partenariat B, ses implications, c'est vrai. Mais également, je sais que Inka a dit tout à l'heure que les questions de budgétisation, ce n'est pas vous, mais je pose quand même la question. Je pose quand même la question sur le processus de budgétisation. Nous, en 2021-2022, on a fait avec la police, mais avec le partenariat C. Et pour le militaire, nous envisageons plus ou moins le partenariat B. Mais là, la question que je me pose, c'est d'abord comment, c'est vrai qu'il y a eu certains pays qui ont déjà utilisé ce genre de partenariat, comment ça a marché et comment se fait également la budgétisation dans ce cadre-là. Et je continue pour dire que j'ai compris que dans le cadre du partenariat B, il n'y aura pas de formation sur place. De partenariat C. Non, ça veut dire que pour le partenariat B, on aura une formation en présentiel. Si j'ai bien compris. Voilà. Donc, la troisième question, peut-être c'est à Déborah, c'est de savoir si les templates tels qu'indiqués dans les courriers de préapprobation ou approbation préliminaire sont déjà disponibles. Thank you very much. Merci.
Donc, je vais fournir un petit résumé. Merci de cette question.
Donc, les questions d'Anna sont par rapport au partenariat B, les implications de budgétisation aussi pour le modèle B, comment ça marche, et aussi par rapport à la formation, s'ils reçoivent la formation en présentiel, s'ils doivent inclure cela dans le budget. Et la dernière question pour Deb, si les matériels sont déjà disponibles en ligne. Merci, merci beaucoup. Je peux démarrer. Merci Anne-Marie pour votre question. Donc, c'est important de clarifier que pour tous les partenariats avec le laboratoire, dans le modèle A ou B, on n'a pas besoin de budgétisation parce que nous fournissons les fonds qui viennent d'un fonds séparé pour pouvoir fournir ce service. Donc, ne devez pas inclure une ligne spécifique pour le budget, dans le budget, pardon. Par rapport au modèle C, dans le modèle C, nous ne participons pas dans le modèle C. Donc, pas de cours en présentiel, pas de formation en présentiel dans le modèle C. Merci Sabrina. Et pour moi, seulement pour confirmer, les documents pour le projet ou le PRODOC, ils sont maintenant en train d'être traduits vers le français et ils seront téléchargés à la fin de cette semaine sur le site web. Donc, les documents seront prêts. Nous allons vous notifier et dans les prochains webinaires aussi. Mais ils seront tous sur le site web vendredi. Et nous allons parler de ça plus en détail demain. Merci. Inka? Oui, merci pour ces questions. Donc, tout d'abord, par rapport au budget, lorsque vous avez choisi les modèles, nous pouvons présenter des commentaires par rapport au budget proposé. Mais lorsque les fonds sont prêts, donc la discussion par rapport au budget ou les changements de budget, cela se fait avec le secrétariat. Cependant, si vous voulez avoir une séance spécifique pour penser au budget, pour considérer le partenariat et les aspects du budget, et si vous choisissez le B, il y a aussi une discussion avec Cornell par rapport aux détails. Nous offrons les cours de formation pour le modèle C et c'est une possibilité. Et c'est aussi une possibilité d'avoir une semaine de formation sur place par rapport à la méthodologie MOWIP. Cependant, vous devez avoir toujours une équipe qui a une capacité de recherche parce que la formation est plutôt par rapport à la méthodologie et l'équipe doit avoir des données et des capacités pour commencer. La formation s'agit sur la méthodologie spécifiquement. Et puis, je crois que les méthodes A ou B, vous travaillez avec Cornell tout au long du processus. C'est une expérience plus riche dans les options A ou B. Donc, c'est vous avez le support de Cornell tout au long du processus. Merci, merci Inka. Et demain, vous allez voir que sur l'écran, nous avons une séance détaillée pour compléter le budget dans le modèle d'Excel. Et nous avons un template très détaillé qui montre ou qui inclut toutes les sections, tous les pas de la méthodologie BOWIP. Mais bien sûr, nous pouvons le discuter, nous pouvons donner davantage de soutien pour garantir que toutes les lignes reflètent le coût du processus, tous les coûts qui sont impliqués et pour nous assurer que cela reflète les exigences nécessaires et qu'il n'y ait pas d'autres exigences. Il faut bien sûr faire une gestion du budget très stricte et tout cela par rapport aux récipiendaires aussi. Ils doivent considérer très bien tous les aspects liés à l'utilisation des fonds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous en avez d'autres questions, allez-y. Sabrina ou Inka, est-ce que vous avez des leçons clés que peut-être nous voulons souligner par rapport ou pour les participants aujourd'hui? Tout simplement pour renforcer l'importance de la coordination. Ça, c'est la leçon apprise la plus importante, de s'assurer d'avoir une équipe qui travaille bien ensemble, qui est coordonnée, qui sache partager les informations tout au long du processus. Le processus, en général, prend pas mal de temps, 6 mois, oui, mais en général, c'est plutôt un an complet. Donc, vous allez travailler ensemble pendant une longue période de temps et donc, ça doit marcher bien entre les participants de l'équipe. Nabin, allez-y. J'ai des questions pour Sabrina. Est-ce que nous allons recevoir l'enregistrement de cette réunion? Parce que j'ai rejoint un peu tard, mais je ne suis pas sûre parce que vous avez parlé de modèle A, B ou C et je voudrais savoir s'il y a plus d'informations, quels sont les bénéfices de chaque modèle? Oui, l'enregistrement sera disponible dans notre site web. Nous allons télécharger cela dans les prochains 2 ou 3 jours. Et il y a une bonne explication de chaque modèle de partenariat. Sabrina l'a déjà décrit. Et vous trouverez une explication aussi qui explique chaque modèle sur le site web. Peut-être mes collègues peuvent inclure ce lien sur le chat. Je ne sais pas si vous pouvez voir le chat avant de rejoindre, mais est-ce qu'il y a les restrictions de budget pour chaque modèle? Le budget est différent entre le A et le B et le C, oui. Et nous allons parler en détail du budget lorsque nous parlerons de compléter le modèle Excel lundi prochain. Et nous allons parler du mot WIP et comment compléter le product demain. Donc, je vous encourage à rejoindre l'appel demain et vous pouvez voir ici les différents jours et les heures de chaque webinaire. Oui. Il y a un seul point que je voudrais mentionner. Nous avons tous, nous n'avons que 4 minutes de plus, mais il faut considérer le temps que ça prend pour rédiger des accords. Ça, c'est une leçon clé. Parfois, les cadres temporels sont très optimistes et nous considérons que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais il faut considérer que à l'heure de signer un accord avec une institution de sécurité ou avec un partenaire de recherche, ça prend du temps, mais parce que les différents pays ont des différentes exigences, chaque partenaire a des exigences différentes. Donc, il faut y réfléchir, il faut savoir combien de temps ça va prendre pour signer un accord avant de commencer le travail et vous devez l'inclure dans votre ligne de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer au secrétariat, mais aussi je vous encourage à participer à toutes les séances. Ces séances seront publiées dans notre site web, seront enregistrées et les modèles seront téléchargés sur notre site web cette semaine en anglais et en français. Et nous avons hâte de vous revoir demain à la même heure qu'aujourd'hui. C'est 8 heures à New York. Donc, merci beaucoup pour nous avoir rejoints. Merci beaucoup à Cornell et à Decaf. À Sabrina et Inka pour avoir lidéré la discussion aujourd'hui. Bon après-midi, bonsoir, bon reste de la journée et on se revoit demain. Finalement, merci aussi aux interprètes. Bonne journée, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.